Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Mardi 26 janvier était jour de la République de l'Inde, fête nationale célébrant l'anniversaire de la Constitution qui fut marquée à Delhi par un défilé, l'occasion d'exhiber les derniers équipements militaires indiens dans un contexte de tensions accrues entre la Chine et l'Inde à la frontière himalayenne et jusque dans la diplomatie vaccinale de lutte contre la Covid-19. À l'international, l'arrivée de Joe Biden à Washington est l'occasion de réévaluer les relations de chacun avec les États-Unis. Narendra Modi a perdu un allié en la personne de Donald Trump, là où Pékin s'est félicité de son départ. Regard avec nos invités par téléphone, Vaiju Naravane, journaliste, éditorialiste pour The Wire.in et The Hindustan Times et chef du département études, médias et cinéma à l'université d'Ashoka en Inde, également collaboratrice du Monde diplomatique. Bonjour.
Bonjour.
Depuis New Delhi, Balvir Arora, politologue, président du Center for Multilevel Federalism à l'Institut des sciences sociales. Bonjour.
Bonjour.
Et en studio, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
J'évoquais en introduction la fête nationale indienne du 26 janvier. La version 2021 de cette célébration a été particulièrement chaotique avec la manifestation de milliers d'agriculteurs qui ont occupé le Fort Rouge, l'un des monuments les plus emblématiques et les plus sécurisés de Delhi. Cela fait 2 mois que des dizaines de milliers de paysans manifestent pour forcer le gouvernement à abroger sa réforme visant à libéraliser le commerce agricole. L'agriculture tient en Inde une place particulièrement importante. Elle emploie la moitié des actifs. L'actuel mouvement des agriculteurs constitue la plus importante mobilisation sociale depuis l'arrivée au pouvoir de la droite hindoue et de son parti, le BJP, en 2014. Et apparemment, il ne faiblit pas. Balvir Arora, que se passe-t-il avec l'agriculture indienne?
C'est une tentative de réforme, entre guillemets, c'est ouvrir les marchés au secteur des grandes entreprises, des grandes pour l'alimentation. Mmh. Et là, depuis 2 mois, comme vous disiez, il y avait les agriculteurs qui étaient venus dans leurs tracteurs agricoles, qui s'étaient installés aux alentours de Delhi, à différentes portes, paisiblement, et il y avait des négociations avec le gouvernement, je crois 9 ou 10 fois. Mais ensuite, il y a eu mardi 26, la fête nationale, le défilé militaire, et puis ils voulaient défiler aussi avec leurs tracteurs, et c'était d'accord, ils avaient l'autorisation, mais malheureusement, il y avait des agents provocateurs qui se sont infiltrés et qui ont dévié de la route approuvée. Il y a eu des incidents, il y a maintenant des plaintes. Donc, ils ont réussi à briser l'unité du mouvement, parce que certains se retirent, d'autres dénoncent la provocation. Et c'est un mouvement impressionnant qui est au tournant. On ne sait pas combien restaurants pour manifester et d'autres qui déplorent la violence vont quitter. Et c'est peut-être pour le gouvernement Modi une chance inouïe, là où les négociations n'avaient pas réussi, de briser un mouvement qui était le plus important de son gouvernement a dû faire face.
Alors, est-ce qu'il faut entendre, Naravane, de ce que vient de dire Balvir Arora, que ces infiltrations d'agents provocateurs étaient télécommandées?
Ah ben, il y a beaucoup qui disent que c'était télécommandé. Je pense qu'il faut dire que l'agriculture, quoique plus que 60% de la population indienne dépend de l'agriculture d'une manière directe ou indirecte, est vraiment le maillon faible de l'économie indienne parce que l'agriculture contribue que 18% du PIB indien. Le secteur de manufacturier contribue quelque chose comme 26%. Ça aussi, c'est un secteur faible, mais c'est les services qui contribuent 57 ou presque 60% du PIB indien. Donc, en quelque sorte, l'Inde est devenue postmoderne. On n'a jamais passé par la phase industrielle. Et l'agriculture pose des problèmes particuliers. C'est très nécessaire d'avoir une vraie nouvelle politique agricole. Personne ne doute qu'il faut avoir des changements dans la manière dans laquelle on traite l'agriculture en Inde. Parce que d'un côté, vous avez des fermiers qui sont très, très riches. Quand vous êtes agriculteur en Inde, vous ne payez pas de taxes. Et vous avez beaucoup de subventions pour l'eau, pour l'électricité, pour les engrais, des choses comme ça. Mais la majorité des agriculteurs sont vraiment des pauvres, très pauvres, qui ont des petits lopins de terrain parce qu'il y a le phénomène de fragmentation des terres continue et un appauvrissement des terres. Alors, le gouvernement, évidemment, a l'intention que les grandes enseignes et les grandes entreprises entrent dans le secteur de l'agriculture qui était jusqu'à aujourd'hui un petit peu protégé. Et c'est là où le bât blesse, parce que, évidemment, beaucoup de ces protestataires sont des fermiers riches. Mais c'est pas pour cette raison que les pauvres ne les soutiennent pas. Tout le monde est contre les réformes proposées par le gouvernement parce que on voit que ça n'aide pas véritablement le pauvre agriculteur, mais ça aide les grandes entreprises qui veulent entrer dans le secteur agricole avec le agribusiness. Et la grande distribution.
Alors, une chose que l'on n'a pas dite, je me tourne vers vous, Jean-Luc Racine, c'est que la Cour suprême est intervenue. Elle a suspendu cette réforme voulue par Narendra Modi, une suspension temporaire et non définitive. Alors, est-ce qu'il y a là une tactique? Mais voilà, quelle porte de sortie pour cette crise sur fond de réforme agricole? Est-ce qu'il y avait d'autres voies de réforme que ce que propose Modi? Et comment voyez-vous les choses évoluer?
Alors d'abord, je pense qu'il faut rappeler que les projets de loi ou les lois, les trois lois de réforme du marché agricole n'ont pas été l'objet de négociations préalables avec les syndicats paysans, entre autres, et avec les acteurs en fait du monde agricole. Ce point-là a été souligné. La Cour suprême aujourd'hui en Inde, elle intervient quasiment sur tout. Et là, en l'occurrence, il y a eu des constitutionnalistes qui se sont un peu étonnés, pas seulement qu'elle se manifeste sur la validité ou la non-validité ou la suspension d'une loi, mais sur le fait qu'elle est proposée, à l'instar du gouvernement, semble-t-il, d'avoir une manière de commission pour faciliter la négociation entre le gouvernement et les paysans, en mettant à la tête de cette commission un économiste qui est connu pour ses postures libérales. Donc la sortie de crise n'est sûrement pas pour demain. Effectivement, les violences qui ont marqué l'entrée dans le Fort Rouge ont amené une certaine fragmentation du mouvement. Mais ce qu'on peut retenir pour l'heure, c'est que, alors que le gouvernement continue, un, d'accuser l'opposition, deux, de proposer aux paysans de reprendre le dialogue, la plupart des instances des mouvements paysans restent sur leur position, c'est-à-dire vous retirez ces lois qui enlèvent toutes les protections qu'il pouvait y avoir dans le système préalable, l'État intervenant dans le marché des produits agricoles. Donc c'est une crise sérieuse, c'est la deuxième. Il faut quand même rappeler que les questions de nationalité, etc., avaient lancé un mouvement qui avait duré lui aussi plusieurs mois.
L'année dernière,
et qui s'était éteint quand la Covid était là. Or, là, on a un mouvement qui est unique, effectivement, depuis, en fait, au-delà même du gouvernement Modi. Parce que se mettre à dos les paysans, c'est politiquement risqué.
Et elle intervient, cette crise, avec les paysans, les agriculteurs, et ce projet de réforme, Malvir Arora, Jean-Luc Racine le disait pour la loi sur la nationalité, le monde entier est plongé dans la pandémie, et une pandémie qui est particulièrement sévère en Inde. Donc tout cela, il y a une conjonction de facteurs qui fait que tout cela complique l'un et l'autre. En tout cas, probablement une situation politique particulièrement exacerbée.
Oui, je crois que Jean-Luc a raison, c'est la deuxième crise, mais c'est autrement plus sérieuse pour le gouvernement Modi, parce que à la tête de ce mouvement sont les agriculteurs, et il y a un slogan qui d'un côté dit « vive les soldats », ensuite « vive les paysans », et ce sont les mêmes souches qui fournissent l'armée et qui travaille la terre. Et puis, il y a les Sikhs qui sont en tête. Et là, on a vu que ce n'était pas possible de traiter les protestataires comme on les a traités contre les lois sur la citoyenneté. Avec ces gens-là, il fallait faire très attention. Maintenant, la Cour suprême a aidé le gouvernement en mettant les lois en suspens, mais les négociations étaient quasiment bloquées parce que il y avait un front uni. C'est là qu'ils ont réussi peut-être à briser le front, et donc on s'attend à une période difficile de transition, parce qu'il y a le Parlement qui est convoqué pour le budget le 1er 2 février. Et ils avaient l'intention de manifester là. Maintenant, le programme n'est pas très clair.
Vous écoutez Géopolitique.
Naravane, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur cette épreuve pour Modi que ces manifestations d'agriculteurs aujourd'hui en Inde, où on passe à la pandémie? Qu'est-ce que Vaidyu Naravane?
Oui, je voudrais juste dire une chose qui est assez fondamentale, c'est que le gouvernement Modi a mal jugé la situation. Bon, maintenant, peut-être ils essayent de se rattraper en introduisant les agents provocateurs ou autres pour briser le mouvement, comme dit Balvir. Mais ils ont commencé par dire que c'était des antinationaux, et ce discours qu'ils ont utilisé contre les gens qui protestaient les lois sur la nationalité, qui mettaient les musulmans à l'écart, n'ont pas marché, parce que effectivement, à la tête du mouvement, c'était des Sikhs, et certainement, il y avait beaucoup, beaucoup de soutien pour ce mouvement, des gens de la terre qui se considèrent comme vraiment des Indiens. Traiter les gens de la terre, les paysans d'antinationales, était vraiment une grave erreur de la part du gouvernement. Et je me demande si c'est pas le début du ternissement de cette extraordinaire popularité dont joue Narendra Modi dans le pays.
Alors, Jean-Luc Racine, début du ternissement de l'image de Narendra Modi en Inde?
Ah, en tout cas, la question est posée dans les médias. J'ai vu passer il y a quelque temps un article s'interrogeant est-ce que le BJP, le parti Narendra Modi, connaîtra le sort du Congrès. Bon, évidemment, on n'en est pas là. Mais effectivement, il y a eu des erreurs de fait. Mais je pense que ces erreurs ne sont pas un hasard. Ces erreurs viennent d'un certain mode de gouvernance assez autoritaire. Le Parlement est réduit à peu de choses. La pandémie sert aussi à restreindre ses activités. Le gouvernement, encore une fois, a accusé l'opposition d'être derrière toutes ces manœuvres. Donc, inévitablement, le manque de concertation facilite des erreurs dont toute la question est de savoir si elles sont tactiques ou stratégiques.
Une affaire à suivre. On parle de la pandémie. Pour mémoire, la population indienne, c'est 1,3 milliard d'habitants. L'Inde est le deuxième pays le plus infecté de la planète, avec, d'après les chiffres que j'avais pour préparer cette émission, 10,6 millions de cas cumulés. On assiste à une compétition entre la Chine et l'Inde sur fond de pandémie, avec l'entrée de l'Inde dans la diplomatie vaccinale. 20 millions de doses livrées le 22 janvier au Brésil et surtout distribution gratuite aux voisins indiens d'Asie du Sud de doses de Covishield, le vaccin du britannique AstraZeneca fabriqué en Inde par le Serum Institute of India, le premier producteur mondial. On voit la politique indienne du neighborhood first, c'est-à-dire le voisinage en premier. 100 000 doses ont été envoyées aux Maldives, 150 000 au Bhoutan, 1 million au Népal, 2 millions au Bangladesh, 1,5 million en Birmanie, etc. Est-ce qu'on peut parler de guerre des vaccins entre la Chine et l'Inde, Balvir Arora?
Oui, effectivement, c'est la diplomatie vaccinale et je crois que du Brésil au Maroc, aux pays voisins. La Chine fournit, je crois, au Pakistan et puis surtout en Asie du Sud-Est. Donc il y a des zones bien démarquées de ce point de vue. Ceci dit, il y a les développements sur le front de la pandémie, c'est que les nouvelles règles vont entrer en vigueur le 1er février. C'est la réouverture et l'assouplissement du confinement. La réouverture des restaurants, théâtres, cinémas et les consignes pour les plus de 65 ans sont assouplies. La situation s'améliore. Les vaccins sont pour l'instant pour le personnel soignant, les médecins, les infirmières. Et puis ensuite, il y a une liste longue. Donc, sur les deux fronts, sur ce plan, je crois que le gouvernement, après beaucoup d'erreurs initiales et un peu de chaos et beaucoup de misère économique, semble avoir pris la mesure de la situation. Et on va en s'améliorant.
Alors, beaucoup d'erreurs. Très rapidement, avant de terminer cette première partie d'émission, Vaidjou Naravane, on a vu, on voit cette campagne de générosité du gouvernement indien à l'égard de ses voisins. Il y a des vaccins pour l'extérieur et puis des vaccins pour l'intérieur. Une sorte de... les choses ne se passent pas de la même manière, avec le même rythme, avec les mêmes vaccins. Et en particulier, une campagne de vaccination qui a mal commencé à cause d'une autorisation précipitée d'un vaccin donc indien, le Covax, alors que ces essais en phase 2 n'étaient pas finis?
Oui, tout à fait. En fait, le gouvernement indien, sur la question de vaccination, était hyper nationaliste parce qu'à un moment donné, le gouvernement avait décrété que les scientifiques indiens doivent produire un vaccin digne de ce nom avant le 15 août 2020. Le 15 août étant la journée de l'indépendance de l'Inde. Le 26 janvier, évidemment, c'est le jour quand on a déclaré la République indienne. Mais le 15 août, c'est la date d'indépendance quand les Britanniques ont décidé de quitter l'Inde et on a formé l'Inde et le Pakistan, on a scindé l'Inde en deux. Évidemment, cette rêve n'a pas été réalisée. Mais il y a un effort constant de la part de ce gouvernement de pousser sur ces questions-là. Je voudrais juste revenir sur la compétition entre l'Inde.
Alors, je vous propose, Vaidjou, qu'on y revienne dans la deuxième partie de l'émission. Je vous redonne la parole en vous introduisant en premier. Je vous retrouve, Vaidjou Naravane, Jean-Luc Racine et Balvir Arora. Après le journal, à tout de suite.
My French Film Festival, le public.
Marie-France Chatin. Géopolitique regard sur l'Inde. Nous retrouvons nos invités Vaidjou Naravane, journaliste, éditorialiste pour The Wire.com. In et The Hindustan Times et chef du département études, médias et cinéma à l'université d'Ashoka en Inde, également collaboratrice du monde diplomatique. Depuis New Delhi, Balvir Arora, politologue, président du Center for Multilevel Federalism à l'Institut des sciences sociales. Et en studio, Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Vaidju Naravane, je vous ai interrompu à la fin de la première partie de l'émission. On était parti sur la politique indienne en termes de vaccins, où on voit l'Inde proposer des doses de vaccins à ses voisins. Et je vous posais la question de savoir si on assistait à une guerre des vaccins entre la Chine et l'Inde.
Absolument, parce que l'Inde a récemment eu beaucoup, beaucoup de tensions très accrues avec la Chine. Et la Chine continue à, en quelque sorte, aider le voisinage de l'Inde pour essayer de contenir l'Inde et isoler l'Inde dans la région de voisinage de l'Inde. Le Pakistan, clairement, est un État client des Chinois depuis très, très, très longtemps. Mmh. Mais depuis un certain temps, les Chinois ont commencé à investir massivement dans le Népal, que l'Inde a toujours considéré comme son jardin privé. Et là, les Indiens ont vu que le gouvernement népalais, l'argent et la largesse chinoise qui venaient vers eux, l'Inde avait commencé à perdre un peu de son influence. C'est la même chose avec le Myanmar qui est totalement contrôlé par les Chinois. Et les Chinois ont eu beaucoup à faire avec le Sri Lanka aussi, où ils ont aidé à mater la insurrection des Tamouls et le mouvement indépendantiste des Tigres Tamouls. Ils ont leur œil aussi sur le Bangladesh, où ils commencent à donner de l'aide massive. Mmh. Ça fait partie du projet de la Chine qui s'appelle The Belt and Road Initiative et cette nouvelle corridor économique qu'ils veulent, qui passe par le Pakistan et les pays alentours. Les Indiens ont refusé de participer dans cette initiative chinoise et c'est cette manière-là que la Chine essaye de contrer l'Inde. Mmh. Et alors cette guerre de vaccins, c'est la réponse des Indiens aux pressions qui viennent de la Chine.
Alors, Belt and Road Initiative, la route de la soie chinoise. Jean-Luc Racine, vous confirmez que cette diplomatie du vaccin de Narendra Modi a vraiment pour but de retisser des liens avec ses voisins distendus à cause du poids grandissant de la Chine dans la région.
Oui, absolument. C'est vrai aussi bien pour les grands voisins continentaux, le Népal a été cité, que pour les États insulaires. Donc il y a une stratégie qui s'appuie sur le fait, vous l'avez dit, que le Serum Institute of India, qui est une entreprise privée, est le premier producteur mondial de vaccins. Mais là, ça nous renvoie à une autre histoire des relations entre l'Inde et la Chine. C'est que l'Inde, qui se présente à juste titre en partie comme la pharmacie du monde, une bonne part des principes actifs des médicaments génériques indiens viennent de Chine. Et donc, après les graves incidents frontaliers qui ont véritablement détérioré les relations bilatérales entre New Delhi et Pékin, des mesures ont été prises pour surveiller de plus près les investissements chinois en Inde. Les applications chinoises ont été bannies pour une bonne part, des téléphones mobiles qui souvent sont des téléphones mobiles fabriqués en Chine et qui sont utilisés en Inde. Donc on entre dans une espèce de compétition tous azimuts, avec un volet militaire tout à fait important, un volet diplomatique, et puis tout ce qui touche au-delà de la diplomatie classique, et en ce moment, bien sûr, cette diplomatie vaccinale.
Alors, le volet militaire, on y vient. Simplement, je rappelle, et c'est une précision toujours éclairante pour nos auditeurs, les usines indiennes qui fabriquent 40% des médicaments génériques vendus aux États-Unis, on parlait de l'Inde comme puissance pharmaceutique, et les usines indiennes qui produisent aussi 80% des antirétroviraux utilisés dans le monde pour lutter contre le sida, un énorme actif pour l'Inde. Alors, volet militaire, on y vient. Depuis avril 2020, l'Inde et la Chine se livrent dans les montagnes du Ladakh un combat sans merci pour défendre une ligne de démarcation esquissée en 1962, mais dont le tracé reste contesté. La frontière malayenne est donc litigieuse. Elle s'est enflammée en mai-juin dernier. Il y a au moins 20 soldats indiens et un nombre inconnu de forces chinoises qui ont été tués dans cette région du Ladakh. Alors, il y a une question de au cœur des tensions, le lac Pangong, etc. Qu'est-ce qui se passe véritablement au Cachemire entre la Chine et l'Inde, Balvir Arora?
Bien, je crois que ces incidents de mai-juin de l'année dernière étaient les plus graves et le conflit le plus sérieux depuis une quarantaine d'années. Mmh. Parce que le dernier conflit datait, l'Inde et la Chine ont repris les rapports diplomatiques après la guerre de 62 en 76. Et depuis ce temps-là, il n'y avait pas eu un conflit aussi grave sur le terrain de Ladakh, Ladakh oriental, la frontière avec le Tibet. C'est quelque chose qui a marqué. Ça a d'abord été très mal pris par l'opinion indienne qui a réagi avec patriotisme, ce qui allait dans le même sens que le nationalisme patriotique du gouvernement Modi, et des rapports entre l'Inde et la Chine continuent à être au plus bas niveau. C'est vraiment, malgré tous les efforts et la participation dans le forum plurilatéral, les négociations continuent. Sur la frontière, la Chine a construit massivement une infrastructure et il y a une grande différence entre ce que la Chine a pu construire et ce que l'Inde a fait jusqu'à présent. Et puis, c'est une longue frontière. Il y a des incidents sur la frontière avec le Sikkim, sur le côté dans l'est de Arunachal. C'est une situation qui demeure inquiétante. Mmh. Et aujourd'hui, le gouvernement indien insiste sur le respect de trois principes de mutualité, de respect, de sensibilité et d'intérêt. Mais je crois qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente pour faire progresser les rapports.
Alors, ce qui est nouveau, Vaiju Naravane, c'est que le gouvernement indien a toujours cherché à minimiser jusqu'à présent les escarmouches. Alors, on ne va pas aborder la question de responsabilité, mais Balvir Arora l'évoquait à l'instant. C'est une zone qui était un peu abandonnée par l'Inde, là où côté chinois, les populations ont l'électricité, la 5G, des infrastructures tout à fait correctes. Et à cela s'ajoute aussi, août 2019, le gouvernement de New Delhi qui retire Jammu et Cachemire ses privilèges constitutionnels et le Ladakh passe sous l'autorité directe de New Delhi. Est-ce que c'est un facteur qui vient expliquer aussi, puisque New Delhi a donc les canaux sont maintenant directs, est-ce que c'est ce qui explique que les choses se soient envenimées entre Chinois et Indiens dans cette région du Ladakh?
C'est vrai que la Chine a effectivement très mal pris la décision de New Delhi de scinder l'État de Jammu et Cachemire en deux, créant deux entités, c'est-à-dire Cachemire et Jammu ensemble, et en créant la Union Territory de Ladakh. Et ça a été très mal pris, d'abord aussi par le Pakistan, qui a dit que vous êtes en train de faire des changements dans un territoire qui est disputé entre les deux pays. Donc, vous n'avez pas vraiment le droit de faire ça. Quoique le Pakistan continue à faire ce qu'il a envie de faire dans la partie du Cachemire qui est contrôlée par eux. Mais les Chinois étaient franchement très dérangés par ce qu'ils disent, les non-consultations de la part du gouvernement Modi. Et ces escarmouches ont choqué énormément parce qu'il y a eu un accord entre les deux pays justement pour éviter éviter que le sang coule, on a décidé que ni les patrouilles, ni de côté indien, ni de côté chinois, vont utiliser les armes à feu. Et alors, on est rentré dans une espèce de guerre médiévale parce qu'ils ont utilisé des bâtons de bois, des gros bâtons de bois, avec des barbelés autour. Les soldats se sont battus à quelque chose comme 14 000 pieds d'altitude, qui est absolument épouvantable. Il y a eu des bousculades où les soldats ont été littéralement poussés des côtes montagneuses dans les rivières gelées. Donc, c'était vraiment des incidents qui ont profondément choqué. La question est que la partie du Ladakh où il y a actuellement des pourparlers, c'est pas tellement stratégiquement important pour l'Inde parce que c'est une zone qui n'est pas du tout habitée, mais c'est le côté est, surtout côté de Assam, côté de Arunachal Pradesh, qui est le plus important. Et les Indiens disent que peut-être il y aurait possibilité de négocier une partie contre l'autre partie. La partie centrale de Ladakh est très, très stratégiquement importante pour les Chinois parce que ça les laisse faire la connexion entre Xinjiang et le Tibet. C'est cette partie centrale qui est très importante pour la connectivité intérieure pour les Chinois. C'est beaucoup moins important de point de vue indien. Mais de l'autre côté, à l'est, côté est de Ladakh, beaucoup plus vers la frontière avec la Birmanie ou le Myanmar, ça, il y a des enjeux pour les Indiens parce qu'il y a des populations, ce sont des zones où vraiment les gens parlent assamais et beaucoup d'autres langues indiennes. C'est très important aussi parce qu'il y a cette monastère de Tawang, qui est la deuxième plus grande monastère dans le monde après celui du Potala. Et puis, ça sera un facteur très important dans l'élection du prochain Dalai Lama. Alors, de part et d'autre, il y a des intérêts stratégiques, mais pour l'instant, les négociations sont absolument un point mort. Ça n'a mené nulle part.
Alors Jean-Luc Racine, très rapidement, le Cachemire, on voit bien une région qui s'internationalise au fil de l'évolution des intérêts de chacun. Est-ce qu'il y a des risques que tout cela dégénère ?
Des risques de guerre ouverte pour lesquels on peut brandir le risque nucléaire, ça paraît quand même très peu probable. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que la Chine s'est saisie, en quelque sorte, de la transformation du statut du Cachemire indien, de cette subdivision. Le Ladakh étant très sensible, puisque pour l'Inde, cette zone tampon transhimalayenne entre le Tibet et le Xinjiang, c'est-à-dire deux régions autonomes très sensibles pour Pékin, ça, c'est un territoire revendiqué par New Delhi. Et on peut rappeler que le lendemain même du changement du statut interne du Cachemire, qui normalement ne change pas fondamentalement les choses pour leurs voisins, mais au Parlement, le ministre de l'Intérieur avait rappelé que l'Inde était toujours en réclamant toujours cette zone sous contrôle chinois. Et on peut rajouter très brièvement qu'on note évidemment que la réaction chinoise est aussi liée à la construction d'une route stratégique par l'Inde, une route militaire qui longe la frontière contestée. Alors bien sûr, il faut reprendre la question dans tout son ensemble, de l'ouest jusqu'à l'est de l'Himalaya, comme ça a été fait. Il y a eu des escarmouches ou des face-à-face multiples depuis 2013, 2014, 2017. L'affaire ne peut pas être réglée, parce qu'en plus, en imaginant que l'Inde et la Chine s'échangent des territoires, il reste le le troisième larron, si j'ose dire, c'est-à-dire le Pakistan, dans cette affaire. Et donc, on est là dans un contexte où il y a des conséquences pour la politique étrangère indienne, dans la mesure où le durcissement des relations entre l'Inde et la Chine favorise en quelque sorte la consolidation de ce qu'on appelle le quadrilatéral, c'est-à-dire cette structure de dialogue entre les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie, qui a changé de niveau, et c'est un des enjeux qui sera discuté entre le gouvernement indien et la nouvelle administration Biden à Washington.
Alors, précisément, deux éléments que je voudrais qu'on développe. La question du Pakistan, de l'Inde et de la Chine, que l'on retrouve aussi en Afghanistan. Les négociations actuellement menées avec les talibans n'ont toujours pas abouti. Quel rôle pour l'Inde dans ces négociations et quels changements attendre dans la politique américaine à l'égard de New Delhi, Balvira Roy?
Je crois que l'Inde a été toujours impliquée à côté des Afghans pour les aider, mais surtout dans le secteur civil, les écoles, les hôpitaux. Alors si les États-Unis, sous la direction de Biden, changent la décision de se retirer, évidemment on attend une politique afghane de Joe Biden, mais pour l'Inde, ça reste un voisin avec qui des rapports ont toujours été excellents.
Vaidhu Naravane.
Oui, effectivement, les Indiens étaient extrêmement déçus, extrêmement fâchés, parce que les Indiens ont tout fait pour essayer de mettre les Pakistanais hors jeu dans les pourparlers autour de la paix avec le Taliban en Afghanistan. Les Indiens ont toujours opposé le fait que les Américains ont décidé finalement de tenir des pourparlers directs avec le Taliban, et le Pakistan a eu sa place à cette table. Et ça, ça a vraiment vexé New Delhi d'une manière assez forte. Alors maintenant, avec le changement, avec le départ de Trump et une nouvelle politique, New Delhi espère que les choses vont changer, que les soldats américains vont rester, qu'il y aura peut-être encore un effort pour contenir les talibans et reguider ce soi-disant dialogue qui est extrêmement bancal dans une nouvelle direction plus positive. Je crois que l'arrivée de Biden est un certain choc pour le gouvernement Modi, qui pensait que sur la politique intérieure, il pouvait faire de manière similaire, quoique je considère que Modi est beaucoup plus futé et beaucoup plus intelligent que Donald Trump. Il est quelqu'un qui joue très bien des cartes et il risque de durer très longtemps en Inde.
Jean-Luc Racine, très rapidement.
Il y a eu une certaine inquiétude de la part du gouvernement indien au retour des démocrates, en particulier parce que dans l'équipe Biden, il y avait déjà eu, y compris de la part de Kamala Harris,
d'origine indienne,
comme beaucoup de responsables de la nouvelle administration américaine, il y a beaucoup d'indo-américains dans l'équipe Biden, qui sont sensibles à la question des droits de l'homme, du Cachemire et tout ça. Pour le reste, sur l'Afghanistan, l'Inde a très peu de cartes, puisque l'Inde a eu pour principe de ne jamais rencontrer les talibans, alors que les talibans ont été reçus dans de multiples pays, l'Iran, la Russie, la Chine, le Japon, l'Europe, etc. Donc il y a là une incertitude qui s'aggrave en quelque sorte par les relations de plus en plus tendues entre le Pakistan et l'Inde, et ça c'est un autre dossier qui est sur la table.
Merci Jean-Luc Racine. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et membre d'Asia Centre. Merci aussi à Balvir Arora qui était par téléphone depuis New Delhi. Balvir Arora qui est politologue, président du Center for Multilevel Federalism à l'Institut des Sciences Sociales. Et Vaidhu Naravane, journaliste éditorialiste pour TheWire.in et The Hindustan Times et chef du département études, médias et cinéma à l'université d'Ashoka en Inde, et également collaboratrice du monde diplomatique. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons du Pérou. À demain.